Europe 1, c'est arrivé demain.
Après-demain, mardi, les députés vont commencer à débattre du projet de loi bioéthique et de sa mesure phare, l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes, celles qui vivent seules, femmes célibataires ou qui vivent avec une autre femme, couple lesbien. Bonjour Irène Théry.
Bonjour.
Sociologue de la famille, directrice d'études à l'EHESS, vous soutenez que cette mesure n'est pas une rupture, pas une révolution, mais une évolution logique. Rappelez-nous d'abord ce qu'est la PMA depuis qu'elle est pratiquée en France il y a près d'un demi-siècle.
Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que sous le terme de PMA, il y a en quelque sorte deux PMA. La PMA la plus connue, c'est la PMA thérapeutique, qui s'adresse à un couple hétérosexuel en âge de procréer, qui n'arrive pas à procréer. Et donc, on le traite, on le soigne, pour qu'il arrive à procréer. PMA thérapeutique. Et à côté de celle-ci, il existe une autre PMA qu'on propose d'ailleurs justement en cas d'échec thérapeutique, qui est une PMA qu'on peut dire sociale, au sens où elle ne prétend pas guérir, soigner, par exemple, la stérilité d'un mari stérile, mais s'adresser à une tierce personne qui va donner de ses capacités procréatrices, dont de sperme, dont d'ovocytes, dont d'embryons, pour permettre à ce couple d'avoir un enfant. Donc là, c'est une sorte d'engendrement à l'aide d'une tierce personne, mais ça n'est pas un traitement à proprement parler. Donc cette PMA, qu'on peut dire sociale, la médecine y participe, mais elle ne soigne pas, et c'est bien de celle-là qu'il est question. Les couples de femmes, les femmes seules, souhaitent bénéficier elles aussi de cette PMA sociale qui existe en effet depuis, vous le disiez, un demi-siècle.
Quand les opposants à la PMA disent on n'est plus dans le thérapeutique, on n'est pas loin du transhumanisme, dans le dépassement des lois naturelles, ils oublient que ça se fait déjà.
Voilà, ils oublient de faire cette distinction. Il faut dire que l'Église, nommons-la, est tout à fait opposée au don.
Oui. Hein,
ça, elle ne le dit pas souvent, mais enfin, Donum Vitae 87, c'est l'opposition à la PMA avec un tiers donneur. La Manif pour tous demande l'interdiction générale du don de sperme pour tous. Donc, au lieu de poser le débat de fond, qui peut se poser, sommes-nous pour ou contre le recours au don, les familles issues de dons, les personnes conçues par don, ayons le débat général, il est déporté en quelque sorte sur uniquement les couples de femmes, et je trouve que c'est une façon de les traiter un peu en bouc émissaire d'un problème qu'il faut traiter globalement. La France est-elle prête ou non à accueillir de façon générale les familles issues de dons, que les parents soient une personne seule, un couple de femmes ou un couple formé d'un homme et d'une femme.
On va illustrer ce que vous venez de dire par quelques chiffres. Des enfants nés d'un don de sperme, il y en a eu un peu plus de 70 000 depuis la création des banques de sperme, les Sécos en 73. Et en 2017, un peu moins d'un millier d'enfants sont nés ainsi. Ce que vous nous dites en quelque sorte, Irène Théry, c'est qu'avec la PMA pour toutes, on ne change pas ces pratiques, on les étend à d'autres bénéficiaires.
Voilà, exactement. Le seul sujet est celui-là. On sait bien que les couples de femmes, les femmes seules, font des PMA à l'étranger.
Parce qu'on leur a donné en 2013 le droit de fonder une famille,
voilà,
l'homoparentalité, mais sans leur donner les moyens médicaux de le faire.
Voilà, donc il n'y a rien de nouveau non plus dans le fait qu'un enfant ait deux mères, puisque en effet ce pas symbolique d'autoriser qu'un enfant puisse avoir deux mères, c'est-à-dire en fait de permettre aux homosexuels qui ont toujours eu des enfants, qui autrefois avaient des enfants dans le cadre d'un mariage avec une personne de l'autre sexe et qui vivaient leur sexualité, on va dire, dans le placard. Et puis qui, avec ma génération, sont sortis du placard en se disant « Ah ben, si on sort du placard, on n'aura pas d'enfants, c'est la fatalité. » Et puis qui ensuite se sont dit « Mais pourquoi est-ce que nous, on n'élèverait pas des enfants aussi par l'adoption ? Pourquoi est-ce qu'on ne fonderait pas des familles avec l'aide d'une tierce personne grâce à la PMA ?» Voilà, c'est ça le cheminement. C'est donc une attitude à l'égard des homosexuels et ça n'est pas une attitude contre les hommes ou contre les pères, certainement pas.
Mais ce qui change vraiment ou ce qui va vraiment changer, c'est ce qu'on appelle le secret des origines, que peuvent savoir les enfants sur la façon dont ils ont été conçus. On va parler de cette levée d'anonymat dans un instant.
Europe 1. Chaque dimanche de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen. C'est arrivé demain la suite, c'est sur Europe 1.
Avec la sociologue Irène Théry à l'avant-veille de l'examen du projet de loi bioéthique, avec l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et la fin en partie de ce qu'on appelle le secret des origines. Parce que, Irène Théry, les couples de femmes ne peuvent pas faire croire qu'elles sont les deux parents biologiques.
Voilà, la vraie question que j'essaye de porter depuis longtemps, c'est ce paradoxe que la France organise des familles issues de dons depuis donc près d'un demi-siècle, mais il a toujours dissimulé. dissimulée dans le droit, dissimulée dans les pratiques, dissimulée surtout au regard des enfants.
C'est ce que vous appelez le ni vu ni connu.
Voilà, vous savez que les médecins vont jusqu'à prendre un donneur du même groupe sanguin que le père pour que l'enfant, quand il arrive en classe de 3e, je crois, qu'il apprend les règles de l'hérédité, ne puisse pas savoir. Donc on était dans un système de dissimulation pour les raisons qu'on pensait que finalement cette façon de faire des enfants n'était pas très légitime et donc il valait mieux protéger la famille en la faisant passer pour une famille biologique.
Ou que ça pouvait être traumatisant pour les enfants.
Mais, et oui, on a certainement passé partie de bonnes intentions, mais en fait on a plutôt créé le stigmate qu'on ne l'a combattu en disant ces familles doivent rester un peu secrètes. Et donc avec les couples de femmes, qui ne sont jamais tentés évidemment de se faire passer pour un couple procréateur, qui disent à l'enfant comment il est venu au monde, qu'un gentil monsieur a donné sa petite graine pour que tu puisses être là, etc. Eh bien, la question générale qui est posée, c'est finalement de sortir de cette logique du secret. Et là, il y a un événement très important, c'est que les enfants qui ont été conçus par don il y a 30 ans, 40 ans, sont maintenant des adultes, en âge d'avoir eux-mêmes des enfants. Et le grand changement, c'est qu'ils ont pris la parole. Je crois que ça, on ne le dira jamais assez. Maintenant, dans les médias, vous les recevez, vous les écoutez, ils parlent et ils disent quoi ?
Certains ont fait des tests génétiques.
Et ils disent quoi ? Ils disent, on est très heureux d'être là, d'abord. Donc, vive la PMA avec un tiers donneur. On admire nos parents, on aime nos parents, on soutient la démarche de nos parents. Et on n'a aucun doute sur qui sont nos parents. Mais là où on nous a fait du mal et de l'injustice, c'est en cachant finalement cette démarche qu'ont fait nos parents, au lieu de la valoriser, et en nous empêchant de savoir qui nous a donné la moitié de notre patrimoine génétique. Pourquoi cette personne doit-elle rester un inconnu, une sorte de fantôme, alors que finalement c'est une personne humaine qui a fait un geste généreux pour nous. Et il demande donc qu'on sorte de cette logique du secret et à pouvoir connaître cette personne, au moins son nom.
Donc, la levée de l'anonymat prévue dans le projet de loi, pour le coup, c'est une vraie révolution.
Ah oui, ça c'est vraiment bien, parce que c'est une façon pour la France, finalement, de dire, voilà, nous admettons, nous reconnaissons que ces familles issues de dons existent et nous allons commencer à leur faire une place.
Dites-nous ce qui est prévu. Les enfants issus d'un don pourraient accéder à l'identité du donneur à leur majorité.
Alors, on va bien distinguer deux cas. Hein. On va dire le cas ancien régime et le cas nouveau régime. Ancien régime, c'est-à-dire toutes les dons qui ont eu lieu avant la nouvelle loi. Donc là, les personnes pourront s'adresser à une commission en cherchant à savoir si qui était ce donneur et si ce donneur accepterait, parce que là, l'ancien régime, donc, il a donné dans les conditions du secret, est-ce qu'il accepterait de lever son identité ?
Parce qu'aujourd'hui, c'est protégé par un secret médical absolu.
Voilà. Donc, c'est à la volonté du donneur de lever cet anonymat. Et dans le nouveau régime, les personnes, donc, dans 18 ans ou 19 ans ou plus, s'adresseront à la commission en demandant à pouvoir connaître l'identité. Et là, elle leur sera donnée.
Tout de même.
Voilà, y a une différence. Il n'y a pas une loi rétroactive. C'est très important de le dire pour des donneurs qui s'inquiéteraient qu'on vienne taper à leur porte sans leur demander leur avis. Bien sûr que ça n'arrivera pas.
Tout de même, Irène Théry, ça soulève des questions vertigineuses, parce qu'un donneur n'est pas un parent.
Voilà.
Et les parents peuvent estimer que ce donneur n'a rien à faire dans leur histoire familiale.
Le donneur a fait quelque chose dans leur histoire familiale, c'est-à-dire qu'il leur a permis d'avoir un enfant. Mais là, vous avez tout à fait raison, c'est qu'un donneur n'est pas un membre de la famille, en quelque sorte. C'est une personne qui est très importante. Par exemple, est-ce que vous ne comprenez pas, Patrick Cohen, qu'un enfant se dise « je n'aimerais pas avoir moi-même engendré quelqu'un avec mon propre donneur ». Tout le monde sent bien cela. Que, bien sûr, c'est un étranger, il n'est pas dans la famille, mais il y a comme une sorte d'interdit d'un inceste par consanguinité avec lui. Donc, ce n'est pas n'importe quelle personne. Le sens de son geste, les enfants conçus par don se posent la question. Voilà, c'est simplement lui redonner sa place humaine. Ce n'est pas juste un fournisseur d'un matériau interchangeable de reproduction. C'est une personne individuelle. Et effectivement, il faut rassurer les parents. Il ne s'agit pas d'introduire un rival, mais plutôt de reconnaître que leurs rôles ont été complémentaires. Et les donneurs qu'on commence à entendre aussi, d'ailleurs, qui s'expriment, ne veulent pas prendre une autre place, certainement, que celle de donneur, et rien de plus.
Mais du point de vue de l'enfant, on voit bien l'apaisement que ça peut apporter. On a entendu des enfants en souffrance. Vous avez rappelé que des témoignages ont eu lieu. Mais vous ne pensez pas que ça peut aussi créer du désordre, un grand désordre personnel et familial ? ce genre de révélation ?
Je crois que sur ce point, tous les professionnels sont d'accord. Ce qui a créé du désordre, ce sont des secrets de famille qui ont été constitués par l'État lui-même, on va dire, par la médecine elle-même. Et ces secrets de famille, en fait, ils suintaient, on peut dire, par tous les bouts. Et là, ça, on a la preuve que ces secrets de famille organisés, dans l'intérêt de l'enfant, ont en fait fait du mal. Je crois que la solution qui consiste à être responsable, à répondre de ce qu'on a fait, à pouvoir regarder un enfant en face en disant « Oui, j'ai donné du sperme, je ne savais pas que c'était pour toi, je n'y étais pour rien ». Et très bien, je suis très heureux que tu sois là. Ça n'est pas quelque chose qui va introduire du désordre. C'est notre société tout entière qui doit en fait assumer que donner du sperme, donner des ovocytes, donner des embryons, c'est un acte humain qu'on peut valoriser et qui n'empiète pas sur la famille, mais la rend possible.
Vous êtes pour la fin du mensonge. Dernier mot, sur l'un des arguments utilisés par les opposants à la PMA, ce qu'ils appellent la PMA sans père. On autorise la conception d'orphelin de père. Que dites-vous à cela ?
Je pense justement que la France, notre droit civil a accepté en 2013 qu'un enfant puisse avoir deux mères, donc il n'y a rien de nouveau. Ces enfants ne seront pas sans géniteur, et d'ailleurs ils sauront qu'ils ont un géniteur. Ils seront élevés par deux femmes, ils auront deux femmes comme leurs parents au quotidien, les parents qui les ont souhaités, qui vont les aimer inconditionnellement, qui vont les accompagner. Et comme vous l'avez dit, ça concernera 2000 femmes en France. C'est quand même absurde que, alors que les familles hétéroparentales sont immensément majoritaires, on les présente comme menacées par cette ouverture à ces formes de famille très minoritaires, mais que nous voulons accueillir de façon inclusive.
Merci beaucoup Irène Théry d'être venue au micro de « C'est arrivé demain ».